Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour donner la parole à nos invités et auditeurs. Aux États-Unis, les Africains de la diaspora sont plus de 46 millions, soit près de 14% de la population totale. Au Canada, ils constituent 18% de la population totale. Ils s'organisent en réseau et dans des associations pour réaliser de nombreux projets avec leurs compatriotes en Afrique. La plupart d'entre eux sont animés par le besoin de soutenir le développement socio-économique ou politique de leur pays dans l'espoir d'y retourner. Alors quels sont les liens entre la diaspora africaine et son continent d'origine? Qu'est-ce qui la pousse à garder un lien aussi fort avec l'Afrique? En somme, quel est son apport? Nous avons des invités. Stéphanie Padonou. Stéphanie, bonsoir.
Bonsoir Madame Barge.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes entrepreneure canadienne d'origine gabonaise. Vous êtes présidente de la coalition de la lutte contre les biens mal acquis au Canada. Et nous avons, je crois, aussi en ligne la Congolaise Christelle Awa. Christelle, bonjour.
Bonjour Miss Marie.
C'est un plaisir de vous avoir avec nous également. Alors, vous êtes secrétaire de l'ONG Moseka qui soutient des femmes victimes de violences sexuelles dans l'est de la RDC et vous êtes en partenariat notamment avec l'hôpital Panzi du docteur Mukwege à Bukavu au sud Kivu. Merci mesdames, on va commencer avec vous par Stéphanie Padonou. Je vais vous poser cette question là qu'on vient de poser en introduction très brièvement avant qu'on rentre vraiment dans la matière. Qu'est-ce qui vous pousse, vous Stéphanie, à garder un lien aussi fort avec l'Afrique?
Ben, c'est un continent qu'on a quitté pour ma part, c'est vrai, dans le but de poursuivre des études universitaires, mais dans le but de revenir pour le construire, le bâtir et apporter du sien. Donc ce n'était pas dans le but de rester à l'extérieur en fait. Et en tout cas, pour ma part, je suis vraiment attachée à mon continent. Pas seulement à mon pays, mais à mon continent, en fait. Donc, on va regarder ailleurs, on va chercher ailleurs, mais on revient justement pour apporter, mettre sa pierre à l'édifice, comme on dit. Donc, en gros, c'est vraiment ça. Moi, je suis animée par ça.
Merci beaucoup, Stéphanie. Christelle, la même question. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à garder un lien si fort avec l'Afrique?
Comme Stéphanie l'a dit, c'est la même chose. Je suis venue dans le but de me construire et de pouvoir amener quelque chose d'excellent à mon pays et ici par l'Afrique. Ce que je dis toujours, c'est que je crois sincèrement que l'Afrique est le futur du monde. Vraiment, quand on regarde notre population, elle est très jeune, elle est très coriace. Alors, tout ce que je fais... C'est pour l'Afrique et pour mon pays, pour pouvoir l'aider à se développer et à arriver à ce futur où on est les meilleurs.
Alors Christelle, vous avez une ligne qui craque un petit peu, on a des petits craquements, je ne sais pas de quoi cela vient. On va peut-être essayer de vous rappeler, je ne sais pas, sur WhatsApp, pourtant vous n'êtes pas loin, vous êtes ici aux États-Unis, mais on va essayer de vous rappeler pendant que je pose cette question à Stéphanie. Hein. Donc Stéphanie, vous êtes entrepreneur dans l'immobilier au Canada, mais vous avez des projets en Afrique, hein, notamment en Côte d'Ivoire, vous avez ouvert une succursale. Alors quel est l'objectif finalement, sachant que oui, on sait que l'habitat en Afrique est en plein développement et que la demande est croissante, notamment dans les villes. Mais bon, voilà, quel est votre objectif principal à vous et quel plus vous apportez à travers ce type de projet?
Ben, en gros, en fait, on a créé ici au Canada une compagnie par action, le groupe Cavocha. Depuis 2016, on s'est incorporé officiellement, mais ça existe depuis quelques années auparavant. Et là, en fait, ça regroupe un certain nombre d'investisseurs africains, d'origine africaine, mais vivant en Amérique du Nord. Donc, on acquiert des bâtiments ici, donc on est essentiellement dans l'immobilier, mais on touche à d'autres aspects également. Mais avec toujours cet objectif, vu qu'on vient de différents pays africains, au sein du groupe Cavocha, il y a des Ivoiriens, Béninois, Gabonais, on vient de différents pays, comme je l'ai dit. Donc en fait, c'est toujours avec cette vision pouvoir aller investir, créer, bâtir en fait dans notre pays. D'ailleurs, pour la petite histoire, Kavochaz, ça veut dire bâtissons ensemble. Et donc, c'est un petit peu cette vision-là qu'on a. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé donc à ouvrir une première succursale en Côte d'Ivoire, parce que justement, on a des membres qui sont retournés en Côte d'Ivoire pour s'installer. Et donc, il y a des projets qu'on compte mener à bien. On va commencer par la Côte d'Ivoire, mais au fur et à mesure, justement, des pays, des opportunités, et puis bon, de la stabilité aussi politique, hein, parce que l'économie, ça va un petit peu avec ça. Donc, voilà, au fur et à mesure, notre objectif, c'est vraiment d'asseoir, de créer des projets ici qui généreront de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'on vit ici, on est ici, donc il y a peut-être un meilleur contrôle, et aussi la monnaie est plus forte, mais de ce qui va découler d'ici, donc en termes de revenus, voilà, on pourra plus facilement justement investir dans nos pays respectifs. Donc c'est un petit peu ça la vision en fait.
Merci Stéphanie. Christelle Awa, vous avez remporté le concours African Most Beautiful USA. Alors c'est un organisme qui a été ouvert par une Ghanéenne, hein, et qui a fait ça donc pour avoir des fonds pour des villages pauvres en Afrique, hein. On parle ici de beauté intérieure aussi, hein, ce que vous faites pour votre pays et comment vous le représentez à travers ce concours en fait, hein. On a beaucoup de concours de ce type aussi. Ça. Mais on voit ici qu'il y a un objectif concret, notamment vous avez ouvert une clinique au Ghana avec des services gynécologiques. Mais moi je vais vous poser une question un petit peu en dehors de tout ça, mais qui rejoint ce lien avec l'Afrique, hein, sur le plan purement esthétique. Est-ce que c'est une manière de défier les autres concours de beauté en s'affirmant en tant qu'Africaine, et pourquoi est-ce important selon vous ?
Ah oui, absolument. Je pense que personnellement, depuis que je suis toute petite, tout ce que je vois, surtout à la télé, on voit la beauté. On regarde par exemple Miss Univers, on regarde Miss Monde. Et c'est vrai qu'il y a des Africaines qui participent, mais la plupart des fois, on ne représente pas vraiment la beauté africaine. Les rondeurs, notre façon de nous comporter, notre attitude, nos valeurs africaines. Alors c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans l'organisation African Most Beautiful, parce que ce n'est pas seulement à propos d'être mince ou de pouvoir bien marcher ou se représenter. C'était surtout représenter l'Afrique et la beauté de l'Afrique et les valeurs africaines de la femme africaine.
Merci beaucoup Christelle, vous apportez un nouveau canon, votre canon. Stéphanie, en matière de coordination sur le terrain en business, hein, est-ce que vous avez des personnes de confiance, des proches ? Comment est-ce que vous procédez justement pour choisir vos personnes là-bas ?
Mais justement, en fait, c'est la raison pour laquelle on a, on s'est dit qu'on faisait les choses par étapes, parce que, comme je vous disais précédemment, ici, on a une forme de contrôle, de surveillance sur les actions qu'on peut poser sur le terrain. Maintenant, là-bas, là, on a eu la chance d'avoir des membres de Kavocha qui sont retournés. Donc, c'est vraiment ces personnes-là qui sont sur place là-bas, qui, elles, nous mettent en contact avec des gens sur le terrain. Pourquoi ? Parce que c'est sûr que pour la plupart d'entre nous qui sommes à l'extérieur depuis parfois une, deux, trois décennies, ça dépend des membres et tout, ben on sait que pour faire des affaires au niveau du continent, c'est quand même beaucoup aussi par référence, par connaissance. Donc c'est un petit peu ça. Donc c'est toujours important justement d'avoir des personnes sur place qui connaissent le système, qui voient comment ça fonctionne, parce que c'est pas du tout la même façon de procéder. Et donc ça permet justement de développer en fait des affaires avec, oui, les connaissances d'ici, mais en adaptant, en fait, en s'adaptant aux réalités locales. Parce que c'est sûr que quelque part on peut pas débarquer, on connaît personne, on sait pas à quelle porte frapper et tout. Donc c'est toujours beaucoup plus difficile, tandis que localement, le fait d'avoir des personnes qui sont intégrées, qui peuvent nous référer, et puis bon, nous également, par la suite, il y a des membres qui comptent au fur et à mesure de l'évolution des projets, justement faire des va-et-vient à chaque fois en fonction des dans les pays où on aura les projets et tout. Donc bon, ça permet justement cette intégration là et puis aussi de laisser le contrôle après ça à une équipe locale, et puis de surveiller à distance et de poursuivre avec d'autres projets et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ça.
Merci Christelle. Merci, pardon. Stéphanie, je me retourne vers Christelle pour parler de l'action concrète avec votre ONG Moseka, justement, qui soutient des femmes et leurs enfants dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et vous visez à rendre ces femmes autonomes. On parle beaucoup d'autonomisation économique des femmes. C'est une grande tendance. Et vous avez répondu à l'appel. Alors, qu'est-ce qui vous a fait réaliser qu'il s'agit en effet d'une priorité, finalement, l'autonomisation économique des femmes?
La première des choses, c'est qu'on considère le fait que les femmes, elles sont d'abord stigmatisées. Personne ne veut les aider, personne ne veut être associé à elles dans la société à cause de de la mentalité où la victime est considérée comme si c'était sa faute si elle est passée par de moments par le viol. Alors, on voulait premièrement aider les enfants. Notre premier but, c'était de mettre les enfants à l'école parce que, surtout les filles, ces dames. Mais après avoir y pensé, on a dit on ne pourra pas toujours être là pour ces femmes et on ne pourra pas nécessairement aider tous leurs enfants. Alors, si on éduque ces femmes, si on les aide à créer un mind, une façon de penser, de business où elles peuvent se soutenir financièrement d'elles-mêmes, non seulement elles peuvent survenir aux besoins de leur famille et ne plus dépendre de leurs familiers qui ne veulent pas les aider et qui ne veulent rien, qui ne veulent pas s'associer avec elles, mais aussi d'une certaine façon contribuer au développement du pays parce que maintenant elles sont de grandes contributrices dans l'économie.
Merci beaucoup Christelle. Ah ouais, c'est un plaisir d'entendre la petite Kania hein, qui a 6 semaines, n'est-ce pas, votre bébé. Elle est avec nous. Alors Stéphanie, pas de nous, on va revenir vers vous. Après, on va écouter d'abord la réflexion de Abdoul Razak qui est burkinabé, c'est un étudiant en médecine, il est à New York.
Bonsoir Viola. Effectivement, nous gardons en tout cas une relation assez forte. C'est comme si on n'a pas quitté le continent. Nous gardons une relation toujours forte avec nos familles, nos proches, les news du pays et donc tout ce qui est mouvement social, donc mouvement sociaux. Donc nous essayons vraiment de rester en contact et ça c'est le cas pour moi comme pour d'autres qui sont donc dans la même situation que moi. Il y a donc quelques raisons. Donc la première étant le lien familial, exacerbé aussi par le fait qu'aujourd'hui l'internet est là, vous avez WhatsApp, vous avez beaucoup de canaux par lesquels on peut donc joindre les gens facilement. Et c'est pas seulement parler et tout ça, mais nous voulons voir est-ce que l'évolution, quelle est l'évolution de la situation nationale, à quel état on a laissé les parents, est-ce qu'on peut rester ici. Donc, cette ouverture donc, au monde-là fait qu'il y a une prise de conscience donc, de la situation en Afrique comparée au reste du monde. Nous voyons des innovations ailleurs. Cette ouverture-là fait que même ceux qui étaient sérieusement religieux se posent des questions. Pourquoi, par exemple, si nous, on consomme tout ce qui vient d'ailleurs, que ce soit au niveau de la religion, au niveau de la langue, au niveau de tout ce que nous consommons là. Mais il y a tellement de questions qui font que nous faisons beaucoup tous de comparaisons par rapport à la science, l'évolution de la science, de la religion, de la langue, de la culture. Pourquoi nous importons ce que nous faisons? Pourquoi nous ne faisons pas des sources? Pourquoi nous sortons pour aller étudier ailleurs et les gens ne viennent pas étudier chez nous? Donc, cette ouverture-là nous a permis donc, de poser ces questions et ce qui fait que toujours nous faisons toutes ces comparaisons continuelles.
Voilà, c'était Abdoul Razak, un de nos auditeurs hein, de la diaspora africaine. Il est burkinabé. Stéphanie, pas de nous. Avant l'émission, vous m'avez dit qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on sait que la question en matière de business, hein, de politique ou même au plan social serait quelle est la demande, de quoi les gens ont-ils besoin. Vous êtes dans l'immobilier. Est-ce que vous parlez par exemple d'habitations bon marché, adaptées au climat, de désengorgement des villes, notamment moderniser le milieu rural? Là, je dis ça parce que vous êtes une experte et qu'est-ce que vous prévoyez finalement dans ce domaine-là pour l'Afrique?
Alors, c'est assez large. Au départ, effectivement, l'immobilier, c'est, oui, un besoin criard, mais c'est aussi un outil, un tremplin. Parce que l'immobilier, oui, on aura toujours besoin, ça fait partie des besoins de base, donc que ce soit, quelles que soient les gammes, effectivement, de logements qui sont prévus. Mais au-delà de ça, quand je disais c'est aussi un outil, c'est parce que l'immobilier nous permet de développer d'autres affaires. L'immobilier nous permet justement de générer de l'argent pour aller chercher, en fait, pour pouvoir développer différents autres commerces, en fait. Donc, c'est juste que la pierre, de façon simple, brute, c'est une des rares choses, en fait, qui, avec le temps, prend de la valeur, dans laquelle on se trompe le moins, en fait. C'est vrai que c'est pas évident, mais bon. Mais parce que derrière ça, et là, je peux prendre mon exemple à titre personnel et tout. Par exemple, à un moment, j'envoyais des conteneurs. C'est-à-dire que, en fait, à différents niveaux, les besoins sont tellement vastes. Par exemple, des fournitures scolaires. Il y a eu des fois, moi, j'ai 3 enfants. Et ce que je faisais justement pour mes enfants lors de rentrée scolaire et tout, à la veille, il y a plein de soldes. Donc les fournitures scolaires et tout, donc j'amagasinais, j'achetais en fonction des réductions, en fonction des soldes. Et à un moment, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais je me retrouve avec certaines fournitures, mais mes enfants, ils ont besoin que d'une partie. Je ne vais pas garder. Pourquoi je ne fais pas la même chose à une plus grande échelle? Et j'ai commencé à faire la même chose, mais en plus grande quantité, pour justement envoyer. Par exemple, un autre des projets et tout, c'est des bibliothèques et tout, dans des coins, comment dire, ruraux et tout. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, oui, je suis entrepreneur, oui, j'utilise en fait, et moi, c'est l'immobilier que je connais et tout, c'est vraiment ma base, mais c'est ce qui me permet de générer de l'argent pour justement employer par la suite des gens, offrir donc, comment dire, de l'emploi, résoudre certains problèmes aussi, parce qu'il y a énormément de problèmes, et en fait, rendre les gens autonomes, parce que donner de l'argent aux gens, pour moi, ce n'est pas ça qui résout une solution, qui résout un problème. Pour moi, c'est vraiment apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson. Et donc, à travers l'immobilier, il y a tous les corps de métier, il y a toutes les possibilités qui font en sorte qu'on n'aide pas qu'une personne. Au final, oui, il y a de l'argent qui est généré, mais il y a l'employabilité également, il y a un roulement. Donc, c'est un petit peu ça la vision que j'ai. C'est vraiment une vision plus étendue. Et justement, dans le groupe Cavocha, c'est vraiment nous, notre vision générale. Donc, on part de quelque chose que l'on connaît, mais pour essayer d'impacter différents milieux de façon beaucoup plus élargie, en fait.
Stéphanie, merci. Christelle Aoua, vous êtes aussi spécialiste en ressources humaines dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Comment avez-vous choisi, vous aussi, vos partenaires dans l'Est de la RDC? Autrement dit, quelles sont les qualités requises à divers degrés pour gérer vos activités là-bas sur place?
La première des choses sur laquelle on s'est focalisé, c'est une personne qui est sociable. Nous savions dès le début que pouvoir travailler avec ces femmes, en gardant à l'esprit le fait qu'elles sont déjà traumatisées. Il y a beaucoup d'ONG qui vont là-bas, qui leur promettent beaucoup de choses, qui leur disent « nous allons vous aider d'une certaine façon et d'une autre ». Et à la fin de la journée, ce n'est pas vraiment ça. Alors, en choisissant les deux membres principaux avec qui nous travaillons, on a vraiment... On s'est vraiment focalisé sur le fait qu'elle devait être sociable, elle devait avoir une certaine connaissance dans la psychologie, comment gérer les enfants, comment pouvoir parler avec ces femmes pour pouvoir non seulement les éduquer dans un sens financier et comment faire le business, mais aussi leur remonter le moral, leur redonner goût à la vie, quoi. Nous avons couramment deux membres principaux, un homme et une femme. La femme travaille plus avec les enfants, elle fait le tutoring après les cours, et elle leur donne à manger, elle parle un peu chaque jour avec les enfants pour être sûre que les enfants vont bien, leur développement, non seulement intellectuel, mais aussi psychologique.
Merci beaucoup Christelle. Restez avec nous. On va aborder un autre aspect hein, que j'ai introduit tout à l'heure. Hein. Il y a une demande aussi, on parle de plusieurs demandes, mais il y a la demande aussi politique finalement sur le continent. Stéphanie, pas de nous, votre activisme, hein, parce que vous êtes aussi très active au niveau politique, des droits humains. On sait qu'on a des régimes répressifs ou autocratiques hein, parmi d'autres qualificatifs parfois. Vous avez donc une activité politique. Vous êtes un peu sur plusieurs fronts. Et on sait que bon, y a ce lien entre la diaspora et les Africains là-bas sur place, notamment actuellement un bon exemple, hein, les manifestations, par exemple pour le Tchad, pardon. Vous luttez pour l'alternance démocratique, l'assainissement des affaires, la lutte contre la corruption. Alors comment vous faites ce lien finalement, ce lien politique avec le continent?
Merci pour la question. Donc, comme vous l'avez dit en introduction, en fait, je suis à la tête de la CBMA, la coalition des biens mal acquis. Si je prends juste, parce que là, c'est une de mes casquettes actuellement et une des plus importantes d'ailleurs, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, par exemple, au niveau du Canada, souvent, les dirigeants dans nos pays respectifs, lorsqu'il y a des détournements, lorsqu'il y a justement de l'évasion fiscale ou quoi, l'argent sort et l'argent est investi ici sous forme de villas, de châteaux, enfin bref. Nous, quand on arrive dans ces pays-là, qu'on s'y installe et tout, ben, forcément, on adopte les valeurs de l'endroit où on vit. Et donc, justement, par rapport à ça, on se dit, il y a incohérence. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire changer les lois ici, donc au niveau du gouvernement canadien, pour justement empêcher que, les banques ou les avocats, en fait, pour freiner cette évasion fiscale-là, du moins parce que on part d'un principe tout simple. Si l'argent sale n'est plus
très rapidement
dans les...
Très rapidement, Stéphanie, essayez de conclure parce que je voudrais lire quelques commentaires après. Je vous écoute très
D'accord.
rapidement.
Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, c'est ça. Donc, on se dit, si justement, c'est bloqué à l'entrée, ben à ce moment-là, ça permettra aux populations de garder cet argent-là et donc d'avoir des hôpitaux, des écoles, toutes ces infrastructures au niveau social. Et c'est vraiment ça la lutte. Donc, en fait, on travaille au bout de la chaîne, mais pour régler vraiment des problèmes sociaux à la base, parce que c'est ça qui nous préoccupe.
Un grand merci. Stéphanie, restez avec nous. Quelques commentaires de nos auditeurs que je vais lire maintenant. Celui d'Aruna Baldé, il dit « La diaspora africaine entretient des liens forts avec son continent d'origine parce qu'elle sait d'où elle vient et ce qu'elle a laissé derrière elle. » Mais notons ces dernières années une rupture de confiance entre ces deux entités, car ceux qui sont sur place ne facilitent pas à la diaspora d'investir. Et même s'ils le font, il n'y a pas de suivi, dit-il. Moustapha Badiar Diaby, il pense que c'est une excellente idée à encourager. Mamadou Falilou Sek, il dit les émigrés sénégalais établis en Amérique sont non seulement bien organisés, mais ont un apport économique appréciable. Les parkings de Dakar sont remplis de voitures américaines, ce qui n'existe pas auparavant, et la vente de ces voitures génère un profit destiné à la famille de l'émigré. Par ailleurs, ils investissent dans l'immobilier et créent des emplois dans divers secteurs d'activité, car on trouve à Dakar des magasins avec un assortiment exclusivement américain. Donc ça, c'est le commentaire de Mamadou. Et pour terminer, celui de Senadodi Kwadjo, il dit les liens entre la diaspora africaine et son continent d'origine sont forts et elles contribuent au développement du continent. L'Afrique et la terre de leurs ancêtres et leur maison, dit-il, ils doivent avoir soif de retourner. Et voilà pour aujourd'hui, ce sera tout. Un grand merci à nos deux invités, Stéphanie Padonou et Christelle Awa. On vous dit à très bientôt. À la production et aux appels téléphoniques, c'était Fatou Kalala. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Restez avec nous à l'écoute de VOA Afrique pour la suite de nos émissions. Très bon courage et bonne soirée. À bientôt.